Chapitre 50 À la belle étoile. 2 heures avant le moment où Peyrade allait être réveillé dans sa mansarde de la rue Saint-Georges, Corentin, venu de sa campagne de Passy, se présentait chez le duc de Grandlieu sous le costume d'un valet de chambre de bonne maison. À une boutonnière de son habit noir se voyait le ruban de la Légion d'honneur. Il s'était fait une petite figure de vieillard, à cheveux poudrés, très ridés, blafardes. Ses yeux étaient voilés par des lunettes en écaille. Enfin, il avait l'air d'un vieux chef de bureau. Quand il eut dit son nom, M. de Saint-Denis, il fut conduit dans le cabinet du duc de Grandlieu, où il trouva Derville lisant la lettre qu'il avait dictée lui-même à l'un de ses agents, le numéro chargé des écritures. Le duc prit à part Corentin pour lui expliquer tout ce que savait Corentin. M. de Saint-Denis écouta froidement, respectueusement, en s'amusant à étudier ce grand seigneur, à pénétrer jusqu'au tuf vêtu de velours, à mettre à jour cette vie, alors et pour toujours occupée de whisk et de la considération de la maison de Grandlieu. Les grands seigneurs sont si naïfs avec leurs inférieurs que Corentin n'eut pas beaucoup de questions à soumettre humblement à M. de Grandlieu pour en faire jaillir des impertinences. « Si vous m'en croyez, monsieur, dit Corentin à Derville, après avoir été présenté convenablement à l'avoué, nous partirons ce soir même pour Angoulême par la diligence de Bordeaux, qui va tout aussi vite que la malle. Nous n'aurons pas à séjourner plus de 6 heures pour y obtenir les renseignements que veut monsieur le duc. Ne suffit-il pas, si j'ai bien compris votre seigneurie, de savoir si la sœur et le beau-frère de monsieur de Rubempré ont pu lui donner 1 200 000 francs, dit-il en regardant le duc. « Parfaitement compris, répondit le pair de France. « Nous pourrons être ici dans 4 jours, reprit Corentin en regardant Derville. Et nous n'aurons ni l'un ni l'autre laissé nos affaires pour un laps de temps pendant lequel elles pourraient souffrir. C'était la seule objection que j'avais à faire à sa seigneurie, dit Derville. Il est 4 heures. Je rentre dire un mot à mon premier clerc, faire mon paquet de voyage. Et après avoir dîné, je serai à 8 heures. Mais aurons-nous des places ? Dit-il à M. de Saint-Denis en s'interrompant. « J'en réponds, dit Corentin. Soyez à 8 heures dans la cour des messageries du grand bureau. S'il n'y a pas de place, j'en aurai fait faire, car voilà comme il faut servir monseigneur le duc de Grandlieu. « Messieurs, dit le duc avec une grâce infinie, je ne vous remercie pas encore. » Corentin et l'avoué, qui prirent ce mot pour une phrase de congé, saluèrent et sortirent. Au moment où Peyrade interrogeait le domestique de Corentin, M. de Saint-Denis et Derville, placés dans le coupé de la diligence de Bordeaux, s'observaient en silence à la sortie de Paris. Le lendemain matin, d'Orléans à Tours, Derville, ennuyé, devint causeur, et Corentin daigna l'amuser, mais en gardant sa distance. Il lui laissa croire qu'il appartenait à la diplomatie et s'attendait à devenir consul général par la protection du duc de Grandlieu. 2 jours après leur départ de Paris, Corentin et Derville arrêtaient à Mansle, au grand étonnement de l'avoué qui croyait aller à Angoulême. « Nous aurons dans cette petite ville, dit Corentin à Derville, des renseignements positifs sur Madame Séchard. « Vous la connaissez donc ? Demanda Derville. Surpris de trouver Corentin si bien instruit. J'ai fait causer le conducteur en m'apercevant qu'il est d'Angoulême. Il m'a dit que Madame Séchard demeure à Marsac, et Marsac n'est qu'à 1 lieue de Mansle. J'ai pensé que nous serions mieux placés ici qu'à Angoulême pour démêler la vérité. Au surplus, pensa Derville, je ne suis, comme me l'a dit monsieur le duc, que le témoin des perquisitions à faire par cet homme de confiance. L'auberge de Mansle, appelée la Belle Étoile, avait pour maître un de ces gras et gros hommes qu'on a peur de ne pas retrouver au retour, et qui sont encore, 10 ans après, sur le seuil de leur porte, avec la même quantité de chair, le même bonnet de coton, le même tablier, le même couteau, les mêmes cheveux gras, le même triple menton, et qui sont stéréotypés chez tous les romanciers, depuis l'immortelle Cervantes jusqu'à l'immortelle Walter Scott. Ne sont-ils pas tous pleins de prétentions en cuisine ? N'ont-ils pas tous tout à vous servir ? Et ne finissent-ils pas tous par vous donner un poulet éthique et des légumes accommodés avec du beurre fort ? Tous vous vantent leur vin fin et vous forcent à consommer les vins du pays. Mais depuis son jeune âge, Corentin avait appris à tirer d'un aubergiste des choses plus essentielles que des plats douteux et des vins apocryphes. Aussi se donna-t-il pour un homme très facile à contenter et qui s'en remettait absolument à la discrétion du meilleur cuisinier de Mansle, dit-il à ce gros homme. « Je n'ai pas de peine à être le meilleur, je suis le seul, » répondit l'hôte. « Servez-nous dans la salle à côté, » dit Corentin, en faisant un clignement d'yeux à Derville, « et surtout, ne craignez pas de mettre le feu à la cheminée, il s'agit de nous débarrasser de l'onglet. » « Il ne faisait pas chaud dans le coupé, » dit Derville. « Y a-t-il loin d'ici à Marsac ?» demanda Corentin à la femme de l'aubergiste qui descendit des régions supérieures en apprenant que la diligence avait débarqué chez elle des voyageurs accouchés. « Monsieur, vous allez à Marsac ?» demanda l'hôtesse. « Je ne sais pas, » répondit-il d'un petit ton sec. « La distance d'ici à Marsac est-elle considérable ?» redemanda Corentin après avoir laissé le temps à la maîtresse de voir son ruban rouge. « En cabriolet, c'est l'affaire d'une petite demi-heure, » dit la femme de l'aubergiste. « Croyez-vous que monsieur et madame Séchard y soient en hiver ?»« Sans aucun doute, ils y passent toute l'année. » »« Il est 5 heures, nous les trouverons bien encore debout à 9 heures. »« Oh, jusqu'à 10 heures, ils ont du monde tous les soirs, le curé, monsieur Marron, le médecin. » « C'est de braves gens, » dit Derville. « Oh, monsieur, la crème !» répondit la femme de l'aubergiste. « Des gens droits, probes, et pas ambitieux, allez. Monsieur Séchard, quoiqu'à son aise, aurait eu des millions à ce qu'on dit, s'il ne s'était pas laissé dépouiller d'une invention qu'il a trouvée dans la papeterie, et dont profitent les frères Cointet. « Ah oui, les frères Cointet, » dit Corentin. « Tais-toi donc, » dit l'aubergiste. Qu'est-ce que cela fait à ces messieurs que monsieur Séchard ait droit ou non à un brevet d'invention pour faire du papier ? Ces messieurs ne sont pas des marchands de papier. Si vous comptez passer la nuit chez moi à la Belle Étoile, dit l'aubergiste en s'adressant à ses deux voyageurs, voici le livre. Je vous prierai de vous inscrire. Nous avons un brigadier qui n'a rien à faire et qui passe son temps à nous tracasser. Diable, diable, je croyais les Séchard très riches, dit Corentin, pendant que Derville écrivait ses noms et sa qualité d'avoué près le tribunal de première instance de la Seine. « Il y en a, répondit l'aubergiste, qui les disent millionnaires, mais vouloir empêcher les langues d'aller, c'est entreprendre d'empêcher la rivière de couler. Le père Séchard a laissé 200 000 francs de bien au soleil, comme on dit, et c'est assez beau déjà pour un homme qui a commencé par être ouvrier. Eh bien, il avait peut-être autant d'économies. » car il a fini par tirer 10 à 12 000 francs de ses biens. Donc, une supposition qu'il ait été assez bête pour ne pas placer son argent pendant 10 ans, c'est le compte. Mais mettez 300 000 francs s'il a fait l'usure, comme on l'en soupçonne. Voilà toute l'affaire. 500 000 francs, c'est bien loin d'un million. Je me demanderai pour fortune que la différence, je ne serai pas à la Belle Étoile. « Comment ? » dit Corentin. « Monsieur David Séchard et sa femme n'ont pas 2 ou 3 millions de fortune ?»« Mais !» s'écria la femme de l'aubergiste. « C'est ce qu'on donne à messieurs Cointet, qui l'ont dépouillé de son invention, et il n'a pas eu d'eux plus de 20 000 francs. Où donc voulez-vous que ces honnêtes gens aient pris des millions ? Ils étaient bien gênés pendant la vie de leur père. Sans Kolb, leur régisseur, et madame Kolb, qui leur est tout aussi dévouée que son mari. » Ils auraient eu bien de la peine à vivre. Qu'avaient-ils donc avec la verberie ? 1 000 écus de rente. Corentin prit à part Derville et lui dit « In vino veritas. La vérité se trouve dans les bouchons. Pour mon compte, je regarde une auberge comme le véritable état civil d'un pays. Le notaire n'est pas plus instruit que l'aubergiste de tout ce qui se passe dans un petit endroit. Voyez, nous sommes censés connaître les Cointet, Kolb, etc. Un aubergiste est le répertoire vivant de toutes les aventures. Il fait la police sans s'en douter. Un gouvernement doit entretenir tout au plus 200 espions, car dans un pays comme la France, il y a 10 millions d'honnêtes mouchards. Mais nous ne sommes pas obligés de nous fier à ce rapport, quoique déjà l'on saurait dans cette petite ville quelque chose des 1 200 000 francs disparus pour payer la terre de Rubempré. Nous ne resterons pas ici longtemps. Je l'espère, dit Derville. Voilà pourquoi, reprit Corentin, j'ai trouvé le moyen le plus naturel pour faire sortir la vérité de la bouche des époux Séchard. Je compte sur vous pour appuyer de votre autorité d'avoué la petite ruse dont je me servirai pour vous faire entendre un compte clair et net de leur fortune. Après le dîner, nous partirons pour aller chez M. Séchard, dit Corentin à la femme de l'aubergiste. Vous aurez soin de nous préparer des lits. Nous voulons chacun notre chambre. À la Belle Étoile, il doit y avoir de la place.
Oh, monsieur, dit la femme, nous avons trouvé l'enseigne.
Oh, le calembour existe dans tous les départements, dit Corentin. Vous n'en avez pas le monopole.
Vous êtes servis, messieurs, dit l'aubergiste.
Et où diable ce jeune homme aurait-il pris son argent? L'anonyme aurait-il raison? Serait-ce la monnaie d'une belle fille? Dit Derville à Corentin en s'attablant pour dîner.
Ah! Ce serait le sujet d'une autre enquête, dit Corentin.
Lucien de Rubempré vit, m'a dit M. le duc de Chaulieu, avec une juive convertie qui se fait passer pour une Hollandaise et nommée Esther van Boxeck.
Quelle singulière coïncidence, dit l'avoué.
Je cherche l'héritière d'un Hollandais appelé Gobseck.
C'est le même nom, avec un changement de consonne.
Eh bien, dit Corentin, à Paris, je vous aurai des renseignements sur la filiation, à mon retour à Paris.
Une heure après, les deux chargés d'affaires de la maison de Grandlieu partaient pour la Verberie, maison de M. et Mme Séchard.